L'Ascension est une fête curieuse à mon goût, parce que je trouve que c'est une fausse bonne nouvelle. Fausse bonne nouvelle parce que, en fait, Jésus est retiré aux apôtres, et donc l'Ascension, paradoxalement, je dirais que c'est la fête de l'absence réelle du Christ. C'est vrai, à Pâques, on annonce que malgré les apparences, Jésus est là. On dit qu'il est vivant, qu'il marche avec les apôtres, et donc ces apôtres qui étaient tout tristes par la mort de Jésus se trouvent tout à coup tout joyeux de se savoir accompagnés et que le Christ leur est donné, qu'il leur est offert et qu'il marche avec eux. Mais à l'Ascension, ce Jésus qui leur avait été donné à Pâques leur est retiré. Jésus retourne dans le ciel et je dirais Jésus retourne chez son Père, chacun chez soi, Jésus au ciel et les humains sur la terre. Et donc Jésus est retiré, il n'est plus là. C'est pourquoi je vous disais que l'Ascension, si on y réfléchit bien, c'est une sorte de fête de l'absence réelle du Christ. Alors c'est intéressant parce que dans les églises, on parle souvent de la foi, de la présence du Christ à nos côtés. On parle justement de la présence réelle du Christ. Et on parle peut-être trop peu de l'absence de la foi, c'est-à-dire du sentiment que Jésus n'est pas là, qu'il est loin, et qu'on est en quelque sorte un peu laissé tout seul sur cette terre. Peut-être que la Bible ne parle pas assez, ou que dans nos églises, nous ne parlons pas assez de ceux qui ont, justement, qui ne vivent pas dans la plénitude de cette présence de Dieu dans leur vie. De ceux qui ont de la difficulté à prier, de ceux qui ne vivent pas, qui vivent sans le sentiment de la présence de Dieu, et dirais-je même de tous ceux qui sont pris dans le monde, et trop pris dans le monde, de ceux qui doivent tout gérer dans ce monde matériellement, ceux qui sont happés par les tâches mondaines, enfin matérielles, je dirais, terrestres, de ceux qui doivent s'occuper de leur boulot, qui doivent se lever la nuit parce que le bébé pleure, de ceux qui doivent s'occuper de leur travail, de leur famille, du ménage, de la maison, du chômage, de tout, et pour lesquels Dieu peut sembler parfois une sorte, j'allais dire, de luxe pour retraités, de quelque chose de plus que sûrement très bien, mais là on n'a pas le temps, parce qu'on est pris par le monde et que la vie nous happe et nous tire vers le bas. Alors donc, que faire lorsque Dieu est absent? Que faire lorsqu'on a le sentiment que Dieu n'est pas là? Curieusement, c'est quelque chose d'assez présent dans l'Écriture. En particulier, on trouve un bon nombre de paraboles qui vont dans ce sens. Regardez ces grandes paraboles, comme la parabole des talents, la parabole des vignerons. Elles commencent en nous disant « Un maître partit en voyage ». Ce maître, évidemment, c'est Dieu. Et donc toutes ces paraboles qui en fait nous montrent Dieu comme parti en voyage, c'est-à-dire Dieu absent. C'est drôle ça. Dieu s'en va, alors il confie sa vigne aux vignerons. Dieu s'en va, il confie ses talents à ses gestionnaires et il confie sa fortune. Et il y a aussi d'autres passages comme des paraboles moins importantes. Mais la parabole du voleur, où on dit le Fils de l'homme viendra comme un voleur au moment où vous ne l'attendez pas, donc s'il doit venir, c'est qu'il n'est pas là. La parabole des vierges sages et des vierges folles aussi, qui sont dans l'absence du maître et qui attendent le maître. Ou alors la parabole de la tempête apaisée, où Jésus est montré comme en train de dormir dans le fond de la barque et en ne faisant rien. Et finalement, j'ai l'impression que l'Ascension participe à tous ces textes qui ne sont pas a priori directement une sorte de bonne nouvelle, mais plutôt qui évoquent une crise de la foi, une crise de foi en fait. Et cette crise qui concerne tout le monde parce que notre vie spirituelle n'a pas que des hauts et elle a aussi des bas. Voilà. Alors que faire quand Dieu est absent? Les paraboles répondent assez facilement. D'abord, les grandes paraboles, je vous ai dit, des vignerons ou des talents, nous disent que, en quelque sorte, quand Dieu part en voyage, eh bien, il nous confie ses biens, c'est-à-dire qu'il nous demande de gérer ses biens. Autrement dit, même si on n'a pas la foi, on peut toujours travailler les œuvres de Dieu. Voilà. Et donc, ça vous occupera. Bon. Et donc, même si vous n'êtes pas un grand professionnel de la prière et de la mystique, eh bien, il y a là les œuvres de Dieu, c'est de travailler à l'avancement de son règne sur la terre, eh bien, travailler à l'avancement du règne de Dieu. Et donc, travailler à la fraternité, travailler au partage, travailler à la tolérance, travailler à l'amour, travailler au pardon dans ce monde, travailler à la paix, et vous ferez la volonté de Dieu. Donc oui, il n'y a pas besoin de vivre sans arrêt en se pelotonnant dans les bras d'un Dieu amoureux, mais on peut simplement, même si on n'est pas plein de la présence de Dieu, on peut travailler pour Dieu. Et c'est même d'ailleurs ce que les paraboles nous demandent à faire. Et elles disent, méfiez-vous, que si pour vous Dieu est loin, n'en profitez pas pour vous endormir. Donc on peut travailler pour faire l'œuvre de Dieu. Donc ça, c'est la première chose. On peut, dans sa vie terrestre, faire du bien, et c'est déjà pas mal. Et puis, il y a d'autres, je fais le catalogue de ces paraboles, il y a d'autres qui nous donnent des éléments, tiens, que je n'ai pas cité tout à l'heure. C'est celle où il dit, quand le fils de l'homme vous sera retiré, donc quand vous n'aurez pas la présence du Christ, à ce moment-là, il sera temps de jeûner, de faire le jeûne et de prier. Donc ça, c'est autre chose qu'on peut faire quand on n'a pas la foi. Eh bien, c'est de pratiquer sa religion. Voilà. Il n'y a pas besoin d'être un grand mystique pour venir au culte, pas besoin d'être ému aux larmes de la présence de Dieu pour lire la Bible. Je dirais même, au contraire, vous n'avez pas un grand sentiment de la présence de Dieu, rien ne vous empêche de venir au culte et de lire la Bible. Et je dirais même de prier, parce que la prière, c'est une quête de Dieu. Ça n'est pas une réponse à la présence de Dieu. Donc oui, la religion en général, la pratique, dirais-je, ne consiste pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, à se vautrer dans la présence de Dieu, mais consiste à être en quête de la présence de Dieu et à le chercher. Et ça va dans le sens de ce que disent nos amis juifs, ou un grand rabbin me disait un jour que, en fait, pour être juif, il n'y avait pas besoin de croire en Dieu. Il y a une loi, et bien il faut appliquer la loi et les préceptes, et que ça suffit. Et si on croit en Dieu en plus, tant mieux, mais que ça n'est pas indispensable. Eh bien, c'est assez intéressant, parce que je ne dis pas qu'il faille ne pas croire du tout en Dieu, mais est-ce que dans ma vie, chaque jour, chaque minute, j'ai l'impression de croire en Dieu ? Réponse, non. Eh bien, ne vous culpabilisez pas, ça n'est pas grave. Et puis donc, ce que dit aussi Jésus dans un bon nombre de paraboles où le maître semble absent, où l'époux tarde, ce qu'il dit et ce qu'il répète sans cesse, c'est « veillez et priez ». Veillez et priez. L'idée de veiller, c'est l'idée d'attendre quelque chose qui vient. Et il invite, je crois, ceux qui sont dans l'absence, justement, à être dans l'attente de quelque chose qui vient et de quelque chose qui est promis. Tiens, ça, c'est essentiel. Et finalement, j'ai eu tort. Quand je vous ai dit ces grandes paraboles sont des paraboles de l'absence de Dieu, c'est plus ou moins vrai, parce que Dieu est absent momentanément, mais dans chaque parabole, il n'est qu'en voyage et il doit revenir. Et donc toute la parabole est orientée non pas tant sur l'absence que sur le fait que le maître va revenir. Et donc cette absence, si vous voulez, elle n'est que provisoire. Et elle doit être vécue dans l'idée du retour du maître. C'est-à-dire une absence qui me fait attendre quelque chose qui doit venir. On a la même chose dans le récit de l'ascension. Quand Jésus leur est enlevé et les disciples un peu désarçonnés, les anges leur disent « Il reviendra ». Voilà, « Il reviendra ». Et donc voilà, une absence où on se dit « Certes, mais j'attends quelque chose qui vient ». Alors il va revenir pour quoi faire ? Ça, j'ai buté longuement là-dessus, parce que la première réponse qui m'est venue à l'esprit en lisant les grandes paraboles, c'est que le maître doit revenir pour demander des comptes, c'est-à-dire pour juger. C'est ce qui se passe dans la parabole des talents. Il dit « Alors, qu'est-ce que tu as fait des talents que je t'ai confiés ?» Celle des vignerons, il dit « Dis donc, donne-moi la part qui me revient. » Et donc ce maître qui revient pour juger, ce qui n'est certes pas la chose la plus agréable. Et on a la même chose dans la foi chrétienne médiévale, où on dit que Jésus reviendra, pour juger les vivants et les morts. Alors, bon, alors, si c'est ça, ça ne m'enthousiasme pas, mais en même temps, ce n'est peut-être pas entièrement faux. Peut-être que c'est pour dire que même si vous n'avez pas le sentiment là que Dieu est présent, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas un jugement sur le monde, non pas de vous personnellement, parce que vous faites ce que vous pouvez, mais ça ne veut pas dire que tout soit égal, que tout se vaille, qu'il n'y ait plus ni bien ni mal. Même si vous n'avez pas le sentiment de ce Dieu qui nous surplombe, il y a quand même des choses qui sont bien et des choses qui sont mal. Il y a quand même, je dirais, notre vie est quand même sous une sorte de jugement, enfin le mot n'est pas bien, n'est pas beau, j'irais plutôt, nous sommes quand même surplombés par une sorte d'instance supérieure, universelle, qui fait que il y a quelque chose qui est plus grand que nous. Parce que d'ailleurs, si on lit la parabole des talents, nos traductions disent qu'il demande aux serviteurs de rendre des comptes. En fait, la traduction est un peu fautive, le texte dit simplement « rend compte ». Et donc, nous sommes appelés à rendre compte de notre vie devant un plus grand que nous. Donc oui, vous disais-je, il y a une instance plus grande que moi, et même si je ne ressens pas la présence de Dieu, l'essentiel c'est de savoir que je ne suis pas moi le centre du monde, ni le critérium de la valeur de mes propres actes. Mais il y a quelque chose qui me dépasse, qui est l'universel, et devant lequel je dois rendre compte, qui est plus grand que moi, et qui est, pour nous chrétiens, je dirais, la loi d'amour, et que cette loi d'amour est plus importante que mon propre plaisir, et que cette loi d'amour est quelque chose qui me dépasse. Donc, bref, vous dirais-je, si vous ne croyez pas en Dieu, si vous n'avez pas la foi, si vous ne priez pas, ça n'est pas grave, tant que vous croyez dans une loi d'amour qui est plus grande que vous, et tant que vous croyez qu'il y a un universel qui a plus de valeur que votre petit plaisir d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est ça, la parabole des vignerons à la fin de Matthieu. Le maître n'est pas très exigeant, il arrive juste et il dit aux vignerons, bon ben, gardez tout le produit de votre vigne, c'est très bien, mais donnez-moi une part pour moi, donnez-moi la part qui me revient. C'est ça, ne pas tout faire pour soi, ce qui est l'égoïsme, même si on peut en garder beaucoup, on n'est pas obligé de tout donner, mais garder une part pour les autres, pour l'universel, pour qui vous voulez, mais pas pour vous, en fait, c'est ça l'essentiel. Et donc, vous voyez, ce maître qui doit revenir ne revient pas seulement pour juger les vivants et les morts, comme disaient nos vieilles confessions de foi, mais pour dire qu'il y a une présence qui vient et qui est autre que moi-même, c'est-à-dire que cette absence, symbolisée par l'ascension, est une absence, je dirais, fécondée par une présence en surplomb. C'est-à-dire que même si je n'ai pas la foi parfaite à ce moment, je peux agir et je peux savoir qu'il y a néanmoins quelque chose qui me dépasse, que je ne ressens peut-être pas complètement, que je ne comprends pas, mais il y a un mystère qui me dépasse. C'est ça l'essentiel de la foi, dirais-je. Et de se rendre disponible à cet autre que soi-même et apprendre à m'ouvrir à cette autre dimension du divin, de l'invisible, de l'éternel ou du spirituel. Donc autrement dit, vous disais-je, ce n'est pas forcément très grave de ne pas avoir une grande foi. On peut très bien agir tout de même, mais néanmoins, il faut faire attention à un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'il faut éviter un certain nombre de tentations. En effet, les dangers de la faible foi, dirais-je, ce sont les dangers d'oublier ce « il reviendra » de l'ascension, c'est-à-dire les dangers qu'il y a à vivre totalement sans Dieu. Il y a plusieurs dangers. Le premier, ce serait, je crois, de désespérer. S'il n'y a pas de Dieu, s'il n'y a rien au-dessus du monde, rien au-dessus de l'homme, rien au-dessus de moi, alors rien n'a de sens, et finalement le monde est absurde. La souffrance ne rime à rien, l'humanité ne rime à rien, rien ne rime à rien, et on risque de tomber dans une sorte de cynisme effroyable. Et donc les anges de l'ascension ont raison. Dieu est absent, ou peut-être qu'il semble absent, mais il reviendra, c'est-à-dire que le monde est orienté vers quelque chose qui est de l'ordre du futur. Le monde est orienté vers un but et le monde est attiré vers quelque chose vers lequel il pointe, voyez-vous. Et donc le monde n'existe, je crois, que s'il est tendu vers quelque chose, tendu vers un objectif qui lui donne du sens. Et le chrétien, il est comme ça. Sa vie, elle a du sens ou pas, mais sa vie prend du sens lorsqu'elle est tendue vers la présence du Christ, ou de ce qu'il représente, c'est-à-dire son évangile, la loi d'amour et de pardon, et que c'est ça qui finalement donne ma vie, si je l'accroche et si je l'oriente, si je la dirige, si je la pointe vers cette présence du Christ qui est appelée à revenir dans ma vie, qui est sa loi évangélique. Sinon, je vous disais, notre vie n'est qu'absurde, alors que si on a un but, une espérance, alors toute absence finalement devient supportable. Le deuxième danger d'une vie sans espérance ou sans Dieu, c'est celui des vierges folles à la fin de Matthieu, c'est de s'endormir et de ne rien faire, c'est-à-dire de ne plus espérer la foi, de croire que de toute façon je n'attends plus rien. Ma vie de toute façon ne m'apportera plus rien, parce que si ma vie n'est plus tendue vers quelque chose de lumineux devant elle, alors si je n'attends rien, eh bien, je ne peux que me coucher sur place et à attendre la mort. Et donc, oui, c'est le danger des vierges folles de croire que, finalement, le Christ ne reviendra jamais. Et donc, il n'y aura plus jamais dans ma vie ni de joie, ni d'espérance, ni de bonheur, ni de paix, ni de pardon, ni rien. Et du coup, je me décourage et je m'endors. Eh bien, les anges ont raison, il reviendra. Et moi, je dis à chacun... Et à chacun qui se croit dans le noir, ou à chacun qui se désespère, ou à chacun qui décourage, ne vous découragez pas. Parce que toujours, le Christ, je dirais, ou ce qu'il représente, peut revenir dans votre vie. Quelle que soit la noirceur de ce qui vous semble être votre situation d'aujourd'hui, quel que soit ce sentiment d'abandon, de solitude, eh bien, il y a une possibilité qu'un jour vous retrouviez une présence d'amour, de tendresse, d'espérance, de vie, de joie et de paix. Donc oui, votre vie est orientée vers cela. Il ne faut jamais se décourager, mais on peut toujours savoir qu'il y a devant de la lumière possible. Et puis l'autre danger, le dernier que j'ai aperçu de vouloir vivre sans Dieu, ce serait de se prendre soi-même pour Dieu, c'est-à-dire de se faire soi-même le centre du monde. Ce qui pourrait être soit dans le sens d'un égoïsme forcené, et de dire le sens de ma vie c'est de me faire plaisir, de réussir ma vie, d'être heureux moi-même, d'être en paix moi-même. Et ça c'est assez dangereux de tout faire pour son propre service. C'est ce que je vous ai lu en Luc 12, 41, là, lorsque le maître tarde, et que les serviteurs se disent « Bon, de toute façon, puisqu'il n'y a plus de maître, profitons-en, maintenant je suis moi. S'il n'y a ni Dieu ni maître, c'est que je suis moi le maître de ma propre vie et du monde. » Et ça, c'est extrêmement dangereux. Ça ne mène à rien. Ça ne mène à rien, évidemment, ni pour les autres, ni même pour soi, paradoxalement. Parce que j'en suis convaincu et je l'expérimente auprès de tous ceux que je rencontre aujourd'hui. Non seulement il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, mais qui veut sauver sa vie, sa propre vie, la perdra, et que le seul moyen de trouver sa vie, c'est de la donner. Bon. Et l'autre crainte, vous disais-je, c'est de se prendre pour Dieu. Autrement dit, ça c'est le danger de ceux qui ont bon esprit. Ils se disent, moi je ne crois pas en Dieu, mais je crois, oui, qu'il faut faire dans ce monde, il faut faire du bien, il faut travailler à l'humanité, à la paix, à la fraternité. Mais ça, c'est dangereux aussi, parce que ce serait oublier Dieu, ce serait croire que tout ce que l'on fait a une importance ultime, et c'est croire qu'on nous demande de tout faire, et ça, c'est désespérant, et même culpabilisant, parce qu'on n'y arrive pas, et que nous ne sommes pas Dieu. Et que malgré nos efforts, eh bien, nos enfants restent fâchés avec nous. Malgré nos efforts de travailler pour la paix, il y a de la guerre dans le monde. Malgré l'amour que j'ai pour ceux qui me haïssent, ils me haïssent encore plus. Et donc, s'il n'y a que moi, cela est désespérant et culpabilisant parce que je n'y arrive pas. Et ainsi, il est bon, finalement, vous disais-je, de savoir que l'on agit dans ce monde, mais en même temps que nous sommes surplombés par une présence qui est plus grande que nous, surplombés par quelque chose qui fait que nous ne sommes ni le but, ni le fondement, ni l'ensemble de ce qui est, de ce qui donne sens au monde. Et même, dirais-je, finalement, tout ce que je vous ai dit là, sur ces serviteurs des paraboles qui agissent avec ce sentiment du maître qui n'est pas loin et qui revient, mais je me dis, mais c'est formidable ça, c'est le sens même de la vie chrétienne. C'est-à-dire, est-ce que cette absence que j'ai présentée comme un drame que l'on pouvait essayer de suppléer par l'action, par une action juste, est-ce que cette absence est si mauvaise que ça? Peut-être même que cette absence, elle est bonne. Et je dirais même heureuse absence de Dieu qui parfois permet à l'homme de pouvoir agir. Heureuse absence de Dieu qui peut responsabiliser l'homme. Heureuse absence du maître qui part en voyage et qui peut donner sa chance au serviteur de gérer ses propres biens. Extraordinaire. Et qui responsabilise l'homme tout en sans les laisser tomber puisque le maître reviendra. L'absence de Dieu, elle me plaît assez finalement. Cette absence de Dieu parce qu'elle donne de l'air aux disciples. Et elle les responsabilise, c'est-à-dire que cette absence évite, elle évite aux disciples de rester comme des enfants qui seraient dans la dépendance du Père à tout attendre de Dieu. Comme les disciples après la Pâque, qui sont là à attendre que Jésus soit là, à écouter le Père. Et finalement, ils ne font rien, ces disciples. Rien, rien, rien. Il faudra que Jésus soit enlevé pour qu'enfin ils se mettent au boulot à la Pentecôte, si vous voulez. Donc oui, heureuse absence qui responsabilise. Et vous dirais-je même que finalement l'ascension, non, je vous ai dit que c'était une mauvaise nouvelle, mais ce n'est pas du tout une mauvaise nouvelle. Je crois que l'ascension, c'est la grande nouvelle du moment où Dieu va commencer à considérer les apôtres comme adultes. Ça, c'est extraordinaire. Un peu d'absence de Dieu est une bonne nouvelle. L'ascension, c'est le moment où le chrétien est appelé à devenir adulte dans sa foi, parce que l'homme, enfin, peut être responsable et il ne reste pas dans une dépendance infantile par rapport à Dieu. Et je pense que, justement, cette ascension, c'est la fête du christianisme dans lequel je crois, c'est-à-dire d'une religion qui ne met pas le fidèle dans la dépendance, mais d'une religion qui libère le fidèle. À l'opposé de cela, ce sont les sectes de tout poil, les sectes qui invitent leurs fidèles à vivre dans l'obsession de Dieu et qui culpabilisent chaque fois que quelqu'un tout à coup n'a pas envie d'aller à l'église ou n'a pas envie de penser à Dieu ou ne prie pas, ça devient une catastrophe. Les sectes ou ces églises même chrétiennes dans lesquelles on dit qu'on attend tout de Dieu, la santé, les chances, les événements de sa vie où on a l'impression que tout est géré par Dieu et que Dieu gérera bien si on est en bonne relation avec Dieu parce qu'on prie bien, qu'on est bien fidèle, à ce moment-là tout rentre dans l'ordre. Eh bien ça c'est extrêmement dangereux. Nous n'avons pas à vivre dans l'obsession permanente de la présence de Dieu, ni même à tout attendre de Dieu. Comme certains chrétiens, dont j'en ai rencontré quelques-uns il n'y a pas longtemps, qui refusent de se faire soigner en disant « si Dieu veut que je guérisse, je guérirai », pour tout laisser, et qui s'annihilent eux totalement pour laisser plus de place à la puissance divine. Donc non, je prêche une religion où l'on peut vivre en se passant de Dieu. C'est paradoxal, mais où on peut vivre plutôt comme si Dieu n'était pas là, tout en sachant qu'il est là. Un peu compliqué, mais bon, c'est comme ça. Oui, parce que il y a dans ma vie, il y a du Dieu, j'en suis persuadé. Il y a un Dieu, je le crois, mais je suis invité, je crois, à vivre souvent sans qu'il soit là sans cesse, à me regarder, à m'observer, à me commander et à me juger. Et donc oui, j'ai besoin de ce Dieu qui parfois me fiche la paix, si vous voulez. Et je pense qu'une religion saine est une religion qui met une certaine distance entre Dieu et le fidèle. Comment l'appellerions-nous ? Une distance pédagogique, peut-être. Une distance de sécurité, Peut-être aussi, il y a ça dans l'Ancien Testament, hein. Nul ne peut voir Dieu sans mourir. Donc, il faut garder une distance comme il faut. Mais surtout, une distance qui permet de ne pas infantiliser et une distance qui permet de responsabiliser. On a ça dans la tradition juive, vous savez, où on dit que quand Dieu crée le monde, eh bien, le monde créé, c'est l'espace d'où Dieu s'est retiré. C'est un terme connu chez ceux qui pratiquent les églises, ça s'appelle le tzimtzum, c'est joli. Dieu crée en se retirant, c'est-à-dire que la création, c'est justement le lieu où Dieu a fait de la place, autrement dit. Et ça a été développé largement dans les années 60 ou 70 par ce qu'on appelait les théologies de la mort de Dieu, où on a dit le summum de la théologie, c'est la mort de Dieu. Alors, ça ne voulait pas dire l'athéisme, mais c'est la mort d'un certain Dieu de la religion telle que l'ont enseigné nos parents ou nos grands-parents, c'est-à-dire d'un Dieu qui stérilise et qui culpabilise. Donc, la théologie de la mort de Dieu, ce n'est pas l'athéisme, mais c'est d'éloigner un peu Dieu, parce que sinon on est paralysé et stérilisé, vous disais-je, et c'est d'une théologie qui nous responsabilise. Parce que si on éloigne un peu Dieu, finalement on peut ne pas tourner toujours son regard vers la transcendance, toujours tourner son regard vers Dieu, mais on peut apprendre à regarder un peu plus l'homme. Et ça ne fait pas de mal. Et peut-être que ces théologiens de la mort de Dieu, je n'irai pas jusqu'à ce qu'ils proposent, mais eux disent, mais finalement, ils veulent justement enlever un peu de Dieu en disant, si vous regardez un peu moins au ciel, peut-être que vous verrez plus votre frère ou votre sœur qui souffre. Et peut-être que vous serez plus à même aussi d'agir dans ce monde. Parce que c'est bien beau d'avoir des grands principes, de prier, de regarder, alléluia, amen, et puis de ne rien faire pour son frère qui est là exclu, qui est là qui souffre, etc. Parfois, regardez un peu moins Dieu et regardez plus votre frère. Eh bien oui, ils ont raison, ces théologiens de la mort de Dieu. Parce qu'il faut finalement aussi gérer concrètement le monde. Et si on regarde trop loin, on risque de perdre même l'horizon de sa propre vie. On risque de s'absorber dans l'infini et de cesser de vivre. Et je crois, oui, trop de Dieu tue la vie terrestre. Ça, on le voit, hein. Je dirais, chez certains, les réformateurs se sont opposés à une époque, pas à l'ensemble, à toute vie monastique, mais aux ordres cloîtrés, à certains moines un peu extrémistes, qui finalement sont tellement en Dieu qu'ils n'ont plus de vie de monde, plus de vie dans le monde, qui ne possèdent plus rien, plus de sexualité, plus d'engagement pour faire tourner le monde, pour participer au monde et à la ronde de l'humanité. Oui, les gens trop spirituels sont démobilisants et même, je dirais, culpabilisants. Donc ils m'ennuient. Et prétendre être au-dessus des choses terrestres, prétendre être au-dessus des contingences, prétendre être au-dessus de tout ce qui fait notre vie à nous, quotidienne, n'est pas admirable. Non seulement ce n'est pas admirable, mais je crois que c'est dangereux. Et là, je suis très heureux que les pasteurs de notre Église, justement, soient invités à créer une famille, c'est-à-dire qu'ils sont invités à rentrer dans le monde, avec toutes les joies et toutes les peines que ça suppose. Et si on a une famille, ben on est obligé d'avoir une voiture, on est obligé de posséder des choses, on est obligé d'avoir les mêmes préoccupations que tout le monde. On est obligé d'aller à la piscine avec ses enfants, de jouer à la petite voiture avec eux, on est obligé de changer des couches, et voilà, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, parce que nous ne sommes pas invités à être des purs esprits au-dessus de toutes ces choses que l'on laisse au petit peuple, uniquement parce que moi je suis un homme de Dieu, alors toutes ces choses-là, ça, vous comprenez, la sexualité, tout ça, Burke, les enfants, vous me les amenez une fois par semaine au catéchisme, je ne vais pas les voir le reste du temps, ça c'est pas la vie ça. Donc quand on a une famille et des enfants, on est obligé d'être dans le monde, et ça c'est bien. Et donc oui, il faut, je dirais, retrouver, certes être spirituel, mais ne jamais perdre le contact avec le monde, avec la vie, avec la nature, avec les animaux, avec les plantes. Et puis il faut assumer aussi, je crois, dans notre vie, une certaine incarnation. Il faut savoir rire, pleurer, manger, aimer, avoir une sexualité, d'avoir des désirs, des envies, des colères, des frustrations. Ça, c'est la vie, ça. Et je crois qu'on ne peut pas tout mépriser au nom d'un principe supérieur. Donc oui, vous disais-je, Finalement, l'ascension est une bonne nouvelle parce qu'elle nous invite à avoir un équilibre, peut-être, à avoir un équilibre et avoir une théologie qui n'est ni celle de l'obsession de la présence de Dieu, ni une théologie qui serait une sorte d'absence incurable de tout domaine spirituel et de toute instance supérieure. Mais il faut peut-être faire un mélange entre ces deux choses-là. Et d'ailleurs, quand je regarde l'histoire du Christ, d'après Pâques et tout ça, je me dis c'est drôle parce que c'est un jeu permanent entre l'absence et la présence. Dans Jésus, Jésus est là avec ses disciples, et puis il meurt le vendredi saint, il n'est plus là. Et puis il revient à Pâques, il ressuscite, donc il est là. Et puis à l'ascension, de nouveau, il n'est plus là. Et puis il doit revenir. Et donc Jésus, j'adore cette espèce de jeu de cache-cache entre Jésus et les disciples. Parce que finalement, ce jeu de cache-cache, c'est ma vie à moi, où parfois je suis plein de présence de Dieu et je suis enthousiaste à l'idée de la présence de Dieu. Et puis il y a ces moments d'absence où j'agis et je fais autre chose et je ne pense pas à Dieu. Et donc oui, Dieu n'est pas toujours là dans ma vie et ma foi se comporte comme une sorte de succession de présence et d'absence de Dieu. Et ça n'est pas une mauvaise chose, c'est peut-être tout simplement la meilleure chose qui soit pour qu'une vie soit féconde, parce que c'est l'alternance qui crée la fécondité. Pour que les plantes poussent, il faut qu'il y ait du soleil de temps en temps et de la pluie de temps en temps. Si tout n'est que soleil, tout brûle, et si tout n'est que pluie, tout pourrit. Et donc oui, il faut arriver à trouver un mixte dans cette vie, à être à la fois engagé dans le monde et engagé spirituellement, trouver un équilibre entre les deux, ou peut-être que cet équilibre, il se fait par la succession, parfois le monde, parfois Dieu, tac, 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 et on avance comme ça l'un après l'autre, comme les anciens mystiques médiévaux qui disaient que la vie spirituelle était comme la respiration, et que par moments, j'inspire, je me remplis du Saint-Esprit, et d'autres moments, je souffle et j'agis dans le monde. Et que si on ne fait qu'inspirer, on éclate comme une baudruche grotesque, et si on ne fait que souffler, on meurt. Eh bien oui, c'est ainsi. Et cet équilibre entre les deux me fait souvenir d'une petite phrase du pasteur Wilfred Monod, parlant de l'au-delà, c'est-à-dire de cette dimension spirituelle, où il disait, cet au-delà, il ne faut ni s'y noyer au risque de ne plus agir, ni l'oublier au risque de ne plus savoir pourquoi on agit. Oui, c'est vrai, vivre l'absence comme une attente ou plutôt comme une promesse. Donc certainement, nous sommes là dans le monde, responsables de ce monde, parfois un peu livrés à nous-mêmes, mais moi je vous le dis, cette absence n'est pas une absence désespérante parce que Dieu reviendra. Non pas pour juger vraiment, mais ayez confiance, parce que le monde n'est pas laissé à lui-même. Dieu veille, il est là, il veille sur nous, et notre vie, même si Dieu nous confie ce monde, elle est toute orientée vers la présence du Christ qui est appelée à revenir dans nos vies, comme une présence de lumière, d'espérance, de vie, d'amour et de paix. Tout cela qui nous est promis, non pas pour un autre temps, je ne sais quand, mais pour nous dans notre vie, parce que le Christ nous a promis qu'il serait présent dans notre vie et qu'il reviendrait. Amen.